Emmanuel de Lerne, les sorcières noires. Les sorcières blondes, elles remplissent notre vie tout entière. Amour, gloire, hautes et légitimes ambitions, jeunesse et beauté, illusions, espérances et souvenirs, ce sont toujours les blondes sorcières, fées capricieuses que nous avons tous tant que nous sommes entrevues au moins un soir et que nous avons délaissées ou chassées, insensées que nous étions. Et les noires sorcières sont accourues avec les regrets et les larmes, la vieillesse et la solitude. Les sorcières blondes remplissent notre vie, hélas, avec les noires sorcières aussi. Jacques était un heureux enfant. Vêtu de sa blouse grise, serré par une ceinture de cuir, son fusil sur l'épaule, près de lui son grand chien aux longues oreilles et au regard si doux, il s'égarait à travers champs, poursuivant plus de rêves que de cailles et de perdreaux, et souvent faisait grâce à la tourterelle qui gémissait sur la branche du chêne. Il vivait en paix dans le vieux château de son père, près de sa mère et de sa jeune sœur, qui jouait sur le piano les valses de Beethoven et les chœurs de Weber. Il s'en allait le long du ruisseau, bordé de saule, et, assis sur le tronc d'un orne, il écoutait les vagues mélodies des campagnes, et il aimait ces voix diverses et mystérieuses. Le vent qui faisait crier la girouette du clocher, l'eau glissant sur les cailloux, le bruit des feuilles, le son des clochettes des troupeaux, le chant des pâtres inondaient son cœur de recueillement et de paix. Il regardait les étoiles et respirait les fraîches senteurs des bois. Son visage était calme et beau. Rien ne pourrait rendre l'expression de ses yeux bleus. Quelle sérénité dans tout son être! Quelle magnificence de pensée sur son front! Comme ses cheveux noirs et abondants flottaient mollement au gré des brises! Comme sa voix était fraîche et harmonieuse! Il croyait à tout ce que le cœur croit à 18 ans. Heureux âge où les sens s'éveillent au parfum d'une branche de lilas ou d'une rose, où le sang circule plus vite, à la vue d'une jeune fille accoudée à la fenêtre, où l'âme est heureuse d'un rayon de soleil et d'un clair de lune, où l'esprit s'enthousiasme pour un sourire, pour un baiser, pour de beaux vers, pour tout ce qui contient une parcelle de poésie et d'amour. Et ce fut un soir que les blondes sorcières apparurent à ses yeux, ou plutôt à son cœur. De blanches tuniques les enveloppaient de leurs plis gracieux. Elles formaient autour de lui une danse légère et leurs pieds nus touchaient à peine le sol. Leurs visages ressemblaient à ceux des anges. Même douceur, même perfection, même sourire divin. Les cheveux blonds flottaient librement sur leurs épaules. « Je suis l'amour, » disait l'une. « Je suis la gloire, » disait l'autre. Et chacune d'elles se le met à son tour. « Moi, je suis la jeunesse. Moi, la beauté. Moi, la charité. » Et elles ajoutaient, « Viens avec nous. Nous ferons ta vie bien heureuse. Nous couronnerons ton front de fleurs immaculées. Nous en sèmerons partout sous tes pas. » « Moi, je te ferai grand, » disait la gloire. « La foule te saluera au passage. » L'avenir redira ton nom. Ben, je te conduirai vers des rives bénies, continuait l'amour. Tu domineras du regard tout l'univers et appuyé sur mon bras en face des royaumes de la terre. Tu pourras te dire sans orgueil, je suis le roi du monde, tout cela est à moi. Oh, ne me quitte pas, garde-moi longtemps, disait la troisième. Tout se fane et dépérit sans moi. Je puis à mon gré changer en or le métal le plus vil. Je fais un palais d'une chaumière de toutes les douleurs des joies. Ne me brise pas avant l'âge. Ne me chasse pas avant le temps. Regarde-moi bien et reconnais-moi partout. Une fois morte, je ne ressuscite plus. Ami, je suis la jeunesse. La beauté s'avança aussi. Elle ne prononça aucune parole. Elle fixa son grand œil noir sur le pauvre enfant ébloui. Elle laissa flotter sa grande tunique de lin, et relevant fièrement la tête, elle rejoignit ses sœurs. « Moi, je suis la charité, » dit la dernière. « Quand tu seras demeurée seule dans la vie, et que mes sœurs t'auront délaissée, que tu auras beaucoup pleuré, tu viendras à moi. Au revoir, ne m'oublie jamais. » Et sa voix était si douce, son regard si attendri. Il y avait dans tout son être un parfum de mélancolie si pénétrant que Jacques l'écoutait encore lorsqu'il eut cessé de parler. Il n'avait point éprouvé, en l'écoutant, la même impression que tout à l'heure, aux paroles des autres jeunes filles. C'était comme un bonheur moins enivrant, mais plus calme et plus sévère, semblable à celui qu'il avait connu jadis, lorsque, simple enfant de cœur de son village, il jetait des roses et des bluets devant l'autel. « Oh, mes amis, oh, mes sœurs !» s'écria-t-il en étendant les bras. « Je veux vous suivre, je vous aime. Sans vous, je ne pourrai plus vivre, maintenant que je vous ai vus. Où que vous alliez, mes sœurs, emmenez-moi. » Le lendemain, Jacques errait dans la campagne au lever du jour. Il étouffait dans le château de son père. Il voulut s'élancer dans l'infini. Il avait fait de l'orage pendant la nuit. La terre se réveillait brillante de jeunesse, enveloppée dans de légers nuages de vapeur. Insensiblement, le soleil, perçant ces nuages, dorait la terre de ses rayons. Les toits d'ardoise reluisaient comme le marbre. Le ciel était pur, l'air frais. Les fleurs retrouveraient leurs calices emperlés de diamants. Les insectes commençaient à bourdonner dans les trèfles. Les oiseaux chantaient ce qu'ils ont de plus joyeuses chansons. La nature, toute mouillée, ressemblait à Sarah la baigneuse, sortant des ondes du fleuve et se séchant en riant au soleil. Jacques faisait l'école buissonnière comme un écolier échappé de prison. Il se sentait vivre. Il aspirait les joies de l'inconnu, comme une jeune cavale ouvre ses naseaux au tiède brise du printemps. Un sang généreux circulait dans ses veines. Le bonheur inondait son âme. Il en avait assez pour en donner à tous les hommes. Il eût aisément fait heureux le monde entier. Deux jours après, Jacques s'élançait dans la vie. Ce furent des années largement remplies que celles qui s'écoulèrent alors. Jacques suivit longtemps, tour à tour et ensemble, ces belles jeunes femmes qu'il avait conviées à marcher avec elles. Il courut après la gloire. Il dépensa sa jeunesse. Il étreignit sous toutes les formes la beauté entre ses bras. Il choisit l'amour pour sa compagne assidue. Et au milieu de ses joies enivrantes, plus d'une fois, il oublia celle qui ne devait arriver que la dernière, le dévouement, la charité. Et nous aussi, nous rencontrons bien des sorcières blondes sur notre route. Pendant les années de l'adolescence, elles nous apparaissent en tout lieu, à toute heure, sous toutes les formes. Elles nous attirent et nous charment. Fatigués un jour, nous jurons de ne plus nous laisser séduire. Nous voulons régulariser notre vie. Abrités sous les ombrages, nous croyons avoir trouvé la paix du cœur. Nous remercions Dieu du repos qu'il nous envoie. Mais là-bas, rapide comme l'éclair, passe à l'horizon une jeune amazone, la cravache au poing, la taille élancée, les cheveux au vent. Et aussitôt, on s'élance sur ses traces. On l'atteint, on la voit, on se jette à ses pieds. Et désormais, elle dominera toute notre vie. Plus tard encore, meurtri, désespéré, en face de la mer qui bat le rivage, on se complète à mêler sa plainte aux lamentations éternelles de la grande désolée. On s'attarde sur le rocher, on repaît son âme d'images lugubres, on se croit mort à jamais. Il ne reste plus qu'à faire tomber sur soi le marbre pesant du tombeau. Mais soudain, une voix nous appelle. On se réveille comme d'un songe pénible. L'enchanteresse est là. Le désespoir s'évanouit. On part avec elle. La sorcière blonde a vaincu. Et c'est au son de la valse, au milieu des salons inondés de lumière et de parfums, c'est au sommet des Alpes, dans le chalet de la vallée où se repose la caravane, c'est sur le lac bleu que sillonne le paquebot chargé de joyeux touristes, c'est à la ville, c'est au champ, partout, dans tous les coins du monde, que se révèle la blonde sorcière. La sorcière blonde, ce n'est pas seulement la femme aimée, c'est aussi la femme entrevue dans nos rêves, fantaisie de l'esprit et du cœur, moins trompeuse que la réalité. C'est Perlette, c'est Antonia, c'est Berthe, c'est la marquise et la grisette, l'héroïne de l'histoire, ou la pauvre fille du faubourg. Les sorcières blondes, ce sont les créations du génie. Julie de Rousseau, Amélie de Chateaubriand, Virginie de Bernardin, Ophélia de Shakespeare, Rebecca de Scott, Charlotte de Goethe, Valentine de Madame de Stand, Graziella de Lamartine. Ce sont les délaissés de Diaz, François de Rimini, de Schaeffer, Ophélia de Lehmann, la somnambule de Bellini, Sémiramis de Rossini, Lénore ou Lucie, Alice ou Fidès, Sappho de Pradier, la Bacchante de Ctesinger. Et au train dont Jacques menait sa vie, il eut bientôt usé sa jeunesse. Il essaya d'en prolonger les lueurs dernières. Il succomba. Et un jour, il se trouva sans courage et sans espoir. Il était devenu vieux. Il avait 30 ans. Assis près du foyer éteint, il songe à celle qu'il aima. Celle qu'il aima l'a trompé. À son ami. Oh, son ami est d'ailleurs préoccupé à son tour d'amour ou d'ambition. À la gloire. Oh, la gloire s'est envolée au bruit des joies grossières, au souffle mortel de l'oisiveté. Sa chambre est déserte. Les murs sont sans écho. Les fleurs sans parfum. Il se heurte douloureusement contre ce sombre fantôme qu'on appelle le vide de l'esprit et du cœur. Et quand il relève la tête, il aperçoit un pauvre enfant vêtu de noir qui lui ressemblait comme un frère. « Qui donc es-tu, visiteur solitaire, hôte assidu de mes douleurs? Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre ? Qui donc es-tu? Qui donc es-tu, mon frère, qui m'apparaît qu'au jour des pleurs? Ami, notre père est le tien. Je ne suis ni l'ange gardien, ni le mauvais destin des hommes. Ceux que j'aime, je ne sais pas de quel côté s'en vont leurs pas. Sur ce peu de fange où nous sommes, je ne suis ni Dieu, ni démon. Et tu m'as nommé par mon nom quand tu m'as appelé ton frère. Où tu vas, je serai toujours, jusqu'au dernier de tes jours, où j'irai m'asseoir sur ta pierre. Le ciel m'a confié ton cœur. Quand tu seras dans la douleur, viens à moi, sans inquiétude, je te suivrai sur le chemin. Mais je ne puis toucher ta main, ami. Je suis la solitude. Sur la bruyère des vastes landes, à minuit, quand tout dormait, 3 sorcières causaient autour d'un feu désarmant. « Il est temps, disait la première, entends-nous, il pourrait échapper. » Mais de sa main, elle s'efforçait vainement d'arracher un serpent qui lui rongeait le sein. « Oui, répondait sa sœur, C'est une bonne proie qu'il faut saisir. » Et sa tête se penchait sur sa poitrine. Ce peu de mots l'avait fatiguée. Elle s'affaissa sur elle-même. Assez longtemps il fut heureux, reprenait la troisième, couverte de haillons fangeux. Il faut qu'enfin il m'appartienne. Aide-moi, il est perdu. Et, poursuivi par l'insomnie, Jacques passait sur la bruyère. Les trois sorcières marchèrent vers lui, mais elle, belle d'une beauté d'emprunt, vêtue de riches habits qu'elles avaient volés. « Tu ne nous reconnais plus, » dit l'envie d'une voix douce. « Ingrat, et c'est nous pourtant qui revenons encore vers toi. Parle, que désires-tu ? Nous sommes prêts à te servir et nous t'aimons toujours, » ajouta d'une voix dolente le découragement. « Bien, nous te donnerons tous les biens de la terre, » ajouta la misère. « Nous te ferons plus riche que les princes et les rois. Le pouvoir de l'or est tout-puissant. Avec lui, tu peux conquérir le monde. » Jacques restait interdit. Ses voix ne ressemblaient pas à celles qu'il avait entendues 12 ans auparavant. Mais ces femmes étaient belles aux lueurs de la lune. Elle s'adressait à un cœur découragé. « Mais que voulez-vous de moi ? » dit-il. « Mais ton bonheur !» reprirent ensemble les trois sorcières. « Viens !» Elles l'entraînèrent, et par un sentier facile, bordé de fleurs, éclairé de 1000 feux de couleurs, elles le conduisirent vers une grotte tapissée de lierre. Il se laissait conduire comme un enfant. L'entrée de la grotte était couverte d'un tapis de marguerites. Une cascade légère tombait avec mélodie le long du rocher. Elles traversèrent une longue galerie, et Jacques les suivait toujours, mais son cœur se serrait. Arrivé dans une salle voûtée et humide, éclairée par une torche à la lueur sanglante, à la fumée épaisse et nauséabonde, les sorcières jetèrent à bas leur long manteau. « Croisons-nous, lui dirent-elles, et tu seras heureux. » Et avant que Jacques fût revenu de sa frayeur première, elles l'entourèrent de leurs longs bras. Alors, et tout à coup, il sentit un poison mortel entrer dans son cœur. « Tu es à nous !» crièrent ensemble les sorcières. Et dépouillant leurs oripeaux, essuyant leurs fards, elles apparurent aux yeux de Jacques dans toute leur laideur hideuse, vieilles, chauves et ridées, les pommettes des joues saillantes, la bouche large et sans dents. L'une était borgne, l'autre boitait, et la troisième avait la poitrine rouge de sang. « Tu es à nous !» répétèrent-elles en chœur. « Tu es à nous !» Un cri de terreur s'échappa des lèvres de Jacques. Il repoussa les sorcières avec violence. Il s'enfuit en se heurtant contre les parois du rocher. Toute la nuit, il parcourut les landes désertes comme un fou. De ce jour, Jacques sentit sa nature transformée. Son cœur se dessécha. L'envie entra dans son âme. La torpeur s'empara de son esprit. Le découragement et l'ennui vinrent s'asseoir à son chevet. Plus de foi au bien, plus d'amour du beau, plus de compassion pour le malheur. Un matin, qu'il promenait ses tristesses sur le rivage de la mer, demandant à la brise de rafraîchir son front, des chants harmonieux frappèrent son oreille. Ils approchaient insensiblement et comme portés sur les flots. Les chants devinrent plus distincts, et de belles femmes apparurent au milieu des vagues dans une conque de nacre ornée de guirlandes de fleurs. Les chants qu'elles disaient n'appartenaient point à la terre. Elles étaient 4, jeunes, belles et souriantes. Jacques n'eut pas de peine à les reconnaître. À quelque distance du rivage, la nacelle s'arrêta. L'amour parle d'abord. Tu as déserté mon temple et profané mes autels. Tu as jeté ton cœur à toutes les passions indignes que je méconnais et qui prennent faussement mon nom. Nous aurions pu nous comprendre, adieu. Il t'était bien facile d'atteindre jusqu'à moi, dit la gloire. Tu avais reçu de Dieu tous les dons qui font l'homme grand. Tu as perdu tes jours à poursuivre de vaines chimères. Je ne puis plus rien pour toi. Adieu. Et la beauté dit à son tour. Les rides sillonnent ton front. Une pâleur maladie va remplacer sur ton visage les fraîches couleurs des années enfuies. Les folles nuits ont arraché un à un tes cheveux blonds. Va, je ne te connais plus. Et moi aussi, je te dis adieu, murmura d'une voix plaintive la jeunesse. Oh, ne m'accuse pas, n'accuse que toi. Tu m'as tué avant l'âge, tu as flétri tous les charmes de tes 20 ans. Je ne te maudis pas, je te plains. Je voudrais demeurer avec toi. Tu vaux mieux peut-être que bien d'autres de tes frères qui m'ont chassé aussi. Mais le destin m'emporte. Adieu, mon frère, adieu. La nacelle disparut, emportant l'amour, la beauté, la jeunesse et la gloire. Leurs chants se perdirent au milieu des flots. Abîmé dans sa douleur, Jacques tendait vers celle qu'il abandonnait des mains suppliantes. Il resta longtemps ainsi. Enfin, il allait s'éloigner quand, tout près, derrière lui, debout, grave et souriante, pourtant à demi, il reconnut la céleste créature qui, cette fois, n'était point dans la barque et qui lui avait dit son nom, la Charité. Elle n'était pas seule. Elle conduisait par la main un bel enfant, presque une jeune femme, fraîche comme un sourire trempé dans les pleurs. Et le visage de l'enfant rayonnait d'une façon divine. Ses yeux étaient bleus, ses cheveux blonds. Son regard doux et profond pénétrait jusqu'à l'âme. On lui passait des siècles à le contempler. « Écoute, dit la Charité, je ne t'abandonne pas. Je viens au contraire à ton secours. Mes sœurs t'ont délaissé. Elles ne sont pas coupables. Leur destin les emporte loin des malheureux. Le mien est plus doux, et j'en bénis le ciel. J'ai pour mission d'essuyer les larmes qui coulent, de consoler les cœurs meurtris, de relever l'homme qui tombe, de pardonner après la faute. Je puis te sauver, si tu le veux, te sauver de l'envie, de la misère et du découragement. Viens avec moi, nous ferons le bien ensemble. Nous consolerons, nous aiderons, nous pardonnerons. Avec moi, ton existence aura un but. Les blondes sorcières sont envolées, mais tu peux encore échapper à ces monstres qui t'abusèrent un soir. Suis-moi. Les sorcières noires ne pourront t'atteindre. Leurs coups seront inutiles, je saurai bien t'en préserver. » Et la Charité tendit sa main et Jacques la pressa dans les siennes. « Voici ma sœur, continua-t-elle. Nul ici-bas n'a pu l'approcher. Et pourtant, à genoux devant elle, combien n'ont pas vécu heureux. Jamais elle ne trompe ceux qui l'aiment. Jamais elle ne leur semble ni moins jeune ni moins belle. Elle t'aidera à supporter la vie. Elle en a consolé de plus découragé que toi. Elle s'appelle l'idéal. » Jacques voulut aussi saisir la main de la divine enfant. Il ne put parvenir jusqu'à elle. « Je te l'ai dit, reprit la Charité. Nul n'a jamais touché la main de ma sœur. Mais crois-moi, le bonheur qu'elle donne est plus durable et plus pur que tous les bonheurs de la terre. » L'amour qu'elle inspire fait l'homme grand et le fait meilleur. Aime-la sans partage. Durant le reste de ta vie, efforce-toi toujours d'atteindre jusqu'à elle. Un jour, tu seras jugé digne de l'approcher et de la presser sur ton cœur. Jacques fit comme avait dit la Vierge Charité. Il aima ses frères, il se dévoua. L'idéal le consola des déceptions vulgaires et des misères humaines. Il ne recouvra point les illusions de la gloire, de l'amour, de la beauté et de la jeunesse, mais il échappa à l'envie, au découragement, à cette existence sans but et sans dignité dans laquelle il avait été prêt de tomber. Il se consola avec les joies ineffables de l'idéal, qui renferme en lui l'amour, la gloire, la beauté et la jeunesse. Il chercha dans le travail un refuge contre la longueur des heures. Il lui demanda ses plaisirs austères et trop souvent dédaignés, qui emportent l'esprit loin des préoccupations matérielles, enlèvent le sentiment du monde extérieur, régularisent la pensée, apaisent l'ardeur des passions, émousse et endorme les plus cruisantes souffrances. Il se consola aussi avec ses souvenirs, blondes sorcières encore, que le temps rend plus doux et plus cher à mesure qu'il les éloigne davantage. Ainsi que le maître d'école Maria Wills, cette délicieuse création de Jean-Paul, quelquefois en hiver, Jacques n'allumait sa lampe que plusieurs heures après la nuit tombée et récapitulait son passé dans les ténèbres. Et pendant que la neige doublait sa fenêtre d'un épais rideau de neige, que le feu souriait par la bouche du poêle, il fermait les yeux et voyait sur les prés son printemps flétri reverdir. Bientôt, les murs qui l'entouraient disparaissaient comme par magie. La nature se revêtait de la plus brillante parure. La fée bienfaisante des souvenirs reconduisit son manteau doré. Et les rêves tombaient autour de lui comme les roses et les rubis des doigts de l'aurore. Il croyait errer, comme au jour de ses jeunes années, le long des haies d'aubépines en fleurs. Il s'asseyait sous l'ombrage du vieux chêne. Il écoutait, l'oreille attentive, l'air final de la Lucia. Il ne pouvait entendre autrefois, sans rêver des actes d'héroïsme ou de dévouement. Il existe dans la littérature allemande des contes de fées dans lesquels les hommes se laissent ensorceler par des filles de l'air ou de l'onde jusqu'à les prendre pour des femmes. Ils les aiment, les poursuivent, elles leur font promettre de les épouser. Mais le soir des noces, tandis qu'ils rêvent d'amour avec elles le long des ruisseaux ou sur la lisière des bois, elles disparaissent tout à coup dans les airs ou se précipitent dans les ondes. Ainsi Jacques se laissait abuser. Mais il n'en éprouvait pas moins un indicible bonheur à faire glisser ses illusions dans sa mémoire, comme un long chapelet de pierres précieuses qu'on égrène entre ses doigts. Il relisait quelques pages tracées par des mains aimées. Il s'enivrait du parfum des fleurs fleuries. Enfin, ses souvenirs d'un temps meilleur, il les retrouvait partout, dans des vers, dans une mélodie, dans une mèche de cheveux, dans un parfum. Et il les gardait précieusement dans son cœur. La femme est à son gré la sorcière noire ou la blonde sorcière. Elle est pour l'homme le bon ou le mauvais, génie, l'angle gardien ou l'angle tentateur. Par elle, l'homme est grand ou méchant. Dans la vie de tout homme, nous trouvons l'influence d'une femme, amante, sœur, épouse ou mère. Clotilde convertit Clovis à la religion du Christ. Monique prie pour Augustin. Blanche fait de Louis IX un saint. Sous l'influence d'Agnès, Charles VII sauve la France. Henri III et Charles IX sont les enfants de Catherine de Médicis. Madame de Pompadour et Madame du Berry sont les maîtresses de Louis XV. Plaçons toujours une blonde sorcière dans notre vie. Aimons, Croyons et souffrons, sans analyser chacune de nos sensations, sans vouloir les disséquer avec le scalpel infernal de la logique, sans nous demander pourquoi toutes choses sont ainsi. Ne renions ni les affections, ni les croyances de notre jeunesse. Et si le malheur courbe nos fronts, si le découragement s'empare de nos âmes, tournons les yeux vers l'idéal, ami fidèle, blonde sorcière qui ne manque jamais à l'homme pendant sa route et qui l'embrasse enfin au-delà du tombeau.